Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Amis auditeurs, amis auditrices, il est 22h et une petite brouette. Et c'est l'heure de la causerie comme tous les dimanches, évidemment, en tout cas quand on est là, quoi. Ce soir, les studios sont pleins, mais vraiment
à craquer.
Pleins à craquer, quoi. On est les uns sur les autres. Enfin bon, c'est... Enfin bref. Donc à la technique, nous avons quand même toujours la remarquable, la phénoménale Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons aussi Fab.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir. Et nous avons aussi le retour de quelques voix que vous avez connues dans la causerie. Nous avons Jonathan.
Bonsoir.
Nous avons MK.
Hello, hello, hello.
Et nous avons SP.
Salut.
Alors la dernière voix, ils ne l'ont pas connue.
Non, la dernière, vous l'avez pas connue.
Les gens vont dire, mais qui c'est?
Mais les deux avant, vous les avez connus. Eh bien, comme à notre habitude, on va vous rappeler comment nous joindre, évidemment. Donc c'est toujours, n'hésitez pas, si vous voulez nous envoyer un mail, c'est à la causerie canu, tout attaché en minuscule, lacauseriecanu@gmail.com. Si vous voulez écouter tous les podcasts des 448 autres causeries précédentes, c'est sur le blog qu'il faut aller. Donc soit vous tapez dans votre petit moteur de recherche blog Radio Canu, la causerie, vous devriez y arriver. Sinon c'est à blogs, vous voyez le S là qui est appuyé, c'est parce qu'il y a un S quoi à la fin, donc blogs.radiocanu.org/la causerie. Et on peut rappeler que les commentaires sont à nouveau ouverts, donc n'hésitez surtout pas, parce qu'on avait un peu cette habitude avant qu'ils disparaissent, d'avoir des fois des échanges dans les commentaires, et c'est toujours hyper agréable d'avoir vos retours, même si c'est pas forcément pour nous dire super ce que vous faites, hein, c'est pas ça qu'on attend, mais... Voilà, un petit peu d'échange d'idées et tout ça. Toujours agréable. Quoi d'autre? Ben, il y a toujours aussi, on est sur un réseau socio-commercial de marque Z. On ne dira pas plus.
Et sur tous les diffuseurs de podcasts, normalement.
C'est tout à fait ça. Vous tapez la causerie, Radio Canu, et vous devriez tomber sur nous. En plus, il y a le petit logo, donc normalement...
Oui, parce qu'on a appris.
Oui.
On a mis des logos, tout ça. Avant, c'était dégueulasse, ouais, on va dire ce qu'il y a, mais maintenant, on a appris à mettre un logo. Ouais. Ça ressemble vraiment à l'édition.
Non, mais je pense que vraiment... Ouais. D'ici
15 ans à peu près, on devrait arriver à faire des trucs.
Moi, j'allais dire, d'ici 50 ans, à peu près, on devrait être vraiment OP, quoi.
C'est ton pessimisme, ça.
C'est ça. Peut-être ça. Sur mon lit de mort, je saurais mettre l'image sur les podcasts.
Et tu transmettras ça aux gens qui seront autour de ton lit de mort.
C'est ça.
Pour mettre l'image, il faut le droit d'abord. Comme tu le connais, mettre ici la fenêtre.
C'est tout à fait ça. Et ben, on va pas tarder plus longtemps quand même pour la causerie. C'est Fab qui ouvre le bal avec un retour un petit peu sur un sujet dont on a déjà parlé, mais pensait nécessaire, évidemment, de revenir dessus.
Alors, je pensais pas nécessaire de revenir dessus, en fait, mais je vais être obligé de...
l'actualité fait qu'on a jugé nécessaire le fait de revenir dessus, parce que Voilà, enfin c'est, enfin tu
bah oui, je vais expliquer parce que je vais reparler ce soir de la variole du singe, donc yes. Ou de la monkeypox. À chaque fois que j'entends monkeypox, j'ai Funky Tone dans la tête parce que c'est monkeypox. Enfin, je sais pas pourquoi, mais voilà, donc je voulais vous
c'est
le transmettre.
Très funky, effectivement. pas confondre dans la funkypox.
Bah ouais, je voulais vous le transmettre comme ça tout le monde l'aura. Et bon, je vais revenir dessus parce que l'épidémie sévit en ce moment, elle sévit dans le monde entier, pas tout à fait dans 78 pays exactement, ce qui commence à faire beaucoup de pays.
Parlons de la moitié, quoi.
Voilà, et la France n'est pas épargnée par cette épidémie, et je rappellerai que le foyer principal de l'épidémie aujourd'hui est en Europe. Voilà, donc la France, c'est l'Europe, dans l'Europe, tout ça, ouais. Ouais.
Et c'est en Espagne qu'il y a déjà eu des morts.
Ou ouais, tout à fait. Ouais, aussi deux à trois morts et deux en Amérique du Sud, je crois, de mémoire. Donc voilà. Alors on avait déjà abordé le sujet. Donc comme tu le disais, dans l'émission du 3 juillet 2022, c'est la 443e de la causerie. Et donc je me permets de vous renvoyer à celle-ci pour tout ce qui va être symptômes et autres, parce que j'avais un peu creusé et je vais pas le refaire entièrement
oui,
ce soir.
L'idée c'est pas de faire une redite, non, c'est non, justement de compléter, voilà. d'élargir un peu le truc.
Donc c'est sur notre blog ou sur les diffuseurs de podcasts, enfin où vous voulez, mais voilà, c'est à 43.
À blogs.com, on s'arrête.
Mais en fait, dans cette émission, ben, j'ai été un petit peu trop optimiste. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans ma présentation. En fait, comme cette maladie est connue, que des traitements existent, qu'on a un vaccin, qu'en prime, la variole et la variole du singe sont dans la liste des maladies à surveiller dans le cas d'une potentielle attaque bioterroriste, c'est le fameux plan Biotox en France, voilà. Il me semblait quand même que notre pays serait quand même un peu prêt pour contrer une épidémie et aller vite pour l'endiguer.
Ouais, vraiment optimiste.
Hein. Ouais, non, mais j'étais parti dans l'idée que quand même ça devait, voilà. Bon, alors je devrais quand même parfois tempérer mon optimisme.
C'est pas moi qui vais dire l'inverse.
Et ne pas oublier que nous vivons toujours sous l'ère du capitalisme et dans un pays majoritairement réactionnaire. C'est des choses qui m'avaient un petit peu échappé, enfin voilà. Bon, je vais quand même expliquer pourquoi j'avais été optimiste et pourquoi, du coup, il y a quand même un vrai scandale derrière tout ce qui se passe en ce moment. Alors, j'avais parlé des stocks de doses de vaccins qui devaient exister, sauf que j'ai bêtement pensé, là aussi, que la gestion avait été autre que purement capitaliste. Je me suis dit, tiens, il y a quand même des gens sérieux qui ont dû gérer ça. Surtout que je vous rappelle qu'on a un fameux plan Biotox. Vous voyez, c'est un truc où l'armée est dedans aussi, hein, donc c'est censé être quand même carré, quoi. Voilà, bon. Sauf qu'en fait, pas du tout. Hein, voilà. Après les attentats des années 2000, c'est donc mis en place le plan Biotox, je le rappelle, qui portait sur les maladies pouvant être utilisées comme armes biologiques dans le cas d'une attaque terroriste. Voilà. Alors, la variole, donc voilà, et la variole du singe, parce que je vous rappelle que variole et variole du singe, c'est à peu près le même virus, à peu de choses près, étaient dans cette liste-là, avec d'autres, hein, l'anthrax et compagnie. Et donc, théoriquement, il devait y avoir, selon ce qu'on peut lire à droite et à gauche, 20 millions de doses en stock de vaccins contre ces maladies. Voilà, donc je me suis dit, moi, bêtement, quand j'en ai parlé, 20 millions de doses, ça va aller vite pour vacciner les gens. Mais bon, je sais pas si c'était le cas ou non quand même, parce qu'on apprend dans plusieurs médias, et notamment le Canard Enchaîné, que toutes les doses n'ont pas été surveillées en réalité correctement, et donc pour l'ultra-majorité d'entre elles, on a dépassé parfois de 5 ans la date de péremption du vaccin. Voilà, c'est quand même pas mal. Voilà. Et surtout, on les a pas renouvelés, c'est-à-dire qu'une fois que le vaccin était périmé, on l'a acheté. Mais personne s'est dit, tiens, faut en racheter. Et c'est un petit peu le principe.
C'est là la gestion purement capitaliste.
Ah ouais,
clairement. On a l'impression d'entendre une grosse entreprise qui refuse de faire du stock parce que le stock, c'est de l'argent.
C'est ça.
Qui dort.
Et oui, alors, ça doit vous rappeler quelque chose, que c'est un petit peu le même phénomène que pour les masques au début du Covid.
Ah bah oui.
C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on avait des stocks, à un moment, hein, on n'a pas trop surveillé le stock, et après on s'est dit, merde, c'est périmé. Alors, on va peut-être rappeler quand même aux dirigeants de ce pays qu'il y a des dates de péremption sur les yaourts, mais il y en a aussi sur les vaccins, hein, donc c'est important d'en tenir compte. Voilà. Et donc, on est vraiment, comme tu le soulignais Jean-Yves, dans une gestion capitaliste où le stock, ça coûte cher, donc on vire tout. Et le problème, c'est qu'en virant tout, on a privé de couverture vaccinale possible, au final, au nom d'économies de bout de chandelle, parce qu'on va arrêter non plus de croire qu'un stock de vaccins, ça coûte des milliards, hein, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment des économies très minimes à l'échelle d'une nation quand même. Et oui.
Oui, mais en fait, on a quand même des gouvernants qui veulent plus taxer les gens. Alors bon, on essaie de gratter de la thune. Enfin, les pouvoirs politiques essaient de gratter de la thune là où ils peuvent. Alors bon, ils se sont dit, tiens, des stocks de masques, de vaccins, on va gratter quelques millions, ça évitera de je sais pas quoi, donc
ouais,
prendre de l'argent aux plus riches.
Je me demande même pour 20 millions de doses si ça se compte en millions par an. Je suis même pas sûr. Je crois que ça va compter en centaines de milliers à peine, parce que c'est que des frigos, hein, je veux dire. Ouais. Voilà. Alors, par contre, il y a un vrai autre scandale derrière ça, c'est qu'on peut quand même se demander comment il est possible que ces doses n'aient pas été envoyées, par exemple, au Nigeria. Alors, quand je cite le Nigeria, c'est pas pour stigmatiser le Nigeria, c'est juste que le Nigeria a une épidémie de variole du singe qui passe de l'homme à l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas une simple zoonose, hein, c'est-à-dire où on a des transmissions d'humain à humain, et qui est donc signalée par l'OMS depuis 11 ans. Voilà. Donc on se dit, bah, ça aurait été peut-être cool, au lieu de laisser les doses périmer, voyez, se dire, bah, on a des doses, nous on n'est pas touchés pour l'instant, on va envoyer pour enrayer l'épidémie au Nigeria. Et en fait, on a même pas fait le minimum. C'est-à-dire qu'on n'a même pas enrayé l'épidémie là où elle est née, en vaccinant la population grâce à des doses qui existaient.
Oui, mais ça voudrait dire donner gratuitement ces doses quelque part.
Ah oui, oui, c'est ça, ouais. C'est...
Donc ça va pas trop avec l'idée de faire de l'argent, je crois.
Oui, ça, je suis d'accord. Mais ça va dans l'idée de faire de la santé. C'est un truc qui passe comme ça. Mais voilà. Non, mais
j'ai un doute sur le fait que ce soit la priorité. Mais
voilà. Mais en tout cas, il faut savoir que l'OMS a depuis maintenant une quinzaine d'années tiré la sonnette d'alarme et demandé à des pays s'ils avaient des doses disponibles. Voilà. Et a priori, la France n'a répondu non. Voilà. c'est pas vraiment du nouveau, mais c'est plus que du mépris. Hein. C'est une gestion raciste et égoïste, hein, finalement, de la part des pays riches, parce qu'on apprend que les USA et le Japon et d'autres pays riches, coucou le Canada, ont fait exactement la même gestion que la France, c'est-à-dire qu'ils ont laissé crever des doses, qu'ils les ont pas renouvelées et surtout qu'ils ont surtout pas envoyé de doses quand l'OMS a demandé, il y aurait pas quelqu'un qui aurait quelques doses pour endiguer l'épidémie.
Mais c'est voilà. Un peu le même cirque qu'il y a aussi autour de autour du Covid en fait.
Ouais,
ils s'étaient regroupés en disant Covax, etc. Ouais. En disant va, les pays riches vont donner des super, doses ouais. Et en fait bon ben.
Alors un jour on comprendra que contrairement à une idée reçue. Les virus se fichent complètement des frontières et de l'identité ou de la nationalité de celui ou de celle qu'ils infectent. Mais vraiment, ils s'en foutent.
T'es sûr de cette information ?
Et pire, le seul moyen de stopper une épidémie, c'est de la jouer collectif à l'échelle de l'humanité. Dingue, ça voudrait donc dire que l'entraide est plus efficace que l'égoïsme, même dans les maladies.
Oh là 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 là. Moi, j'imagine. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'imagine l'auditeur qui pense qu'à sa gueule. Là, il doit avoir la tête qui doit lui faire mal.
Il n'écoute pas la causerie, l'auditeur qui pense qu'à sa gueule.
Oh bah,
ça. Mais alors, attendez, parce que pour cacher quand même les loupés du gouvernement, il fallait quand même qu'on sorte une arme qui sert dans plein de cas. Et revoilà le secret défense qui est donc brandi, parce que comme c'était dans le cadre du plan Biotox, et donc que c'est un plan partiellement militaire, on a dit, oulala, alors tout ce qui est dose, lieu de stockage, tout ça, on va foutre ça dans le secret défense, et donc tout ce qui concerne les stocks de vaccins et de doses, et les traitements contre la variole du singe, on va mettre ça dans secret défense, comme ça c'est sous le sceau du secret d'État.
De la grande muette, quelle arme.
C'est tellement pratique, ça évite tellement de devoir se justifier déjà. Je vais le dire, on n'entend pas beaucoup la gauche en ce moment demander la levée du secret défense ou une enquête parlementaire ou autre, parce que dans les gauches du gouvernement, faut dire que ce mode de secret défense est souvent utilisé pour planquer ce qu'on veut pas non plus montrer et surtout pour éviter d'être critiqué, hein, parce que c'est un peu ça l'idée. Mais au-delà de ça, on voit qu'on a un nouveau ministre de la Santé, hein, François Braun. Alors il n'y a rien à voir avec les rasoirs, j'ai vérifié. mais je me suis demandé si c'était la même famille, mais non. Voilà. Bon. Donc, je vous donne l'info.
Un éventuel conflit d'intérêts, non ?
Bah non, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est la famille. Mais pas du tout, mais je vous donne l'info. Donc François Braun, vous savez, c'est le monsieur Mission Flash sur les urgences. Vous voyez, c'est le truc.
Ah oui.
Vous savez, ça tac. En un mois, je vous résous tous les problèmes.
Ouais, qui dure depuis des dizaines d'années. Ouais.
Voilà. Donc je vous rappelle que cette Mission Flash, elle avait fait bondir les personnels de santé, tant le plan était idiot et contre-productif, du genre fermons les urgences la nuit. La notion d'urgence, un peu étonnant.
C'est juste qu'il fallait dire aux urgences, vous n'intervenez pas, enfin vous n'existez pas entre 22h et 6h du matin.
Voilà.
Elles sont capables de comprendre ça, les urgences.
Mais surtout, les gens sont capables de se dire, on va attendre 8h du matin pour se blesser, ce sera
genre,
tellement.
J'ai plus mon bras, je vais attendre.
Un garrot. Donc, lui, il a quand même fait une annonce, parce que c'est son job. Hein, voilà. Et puis, je vous rappelle quand même qu'il veut être plus fort qu'Olivier Véran, qui était avant lui, donc il a dit, bon, j'arrive, je suis. Et alors, tenez-vous bien, il ne faudrait vacciner que 250 000 personnes pour que l'épidémie s'arrête.
Oh. Alors, sur 68 millions d'individus. Ouais.
Alors, d'où il sort ce chiffre? Bah, alors, personne ne le sait. D'ailleurs, il y a plusieurs épidémiologistes et virologues qui expliquent que ce chiffre, bah, ça correspond, en fait, à rien. Ouais. Bah, alors, vraiment à rien. C'est-à-dire, c'est ni une statistique qu'on a trouvée quelque part, ni un chiffre qui aurait été sorti d'un rapport par erreur. Ça correspond à rien.
Excuse-moi, mais est-ce que ça pourrait correspondre au nombre de doses qu'on a actuellement?
Alors, a priori, oui. Ça correspondrait à peu près à ça. Mais surtout, en fait, ça ne correspond à rien. Et surtout, c'est ce qu'ils expliquent, les virologues et les épidémiologistes, c'est que les contaminations sont pas les mêmes en ville et à la campagne, par exemple. Donc, comment on peut sortir un chiffre un peu en mode, alors, 250 000 et tout est réglé. Alors, voilà, il y a un épidémiologiste qui disait, bah, 250 000, par exemple, ça peut correspondre aux besoins sur Paris. Potentiellement.
Ouais.
Non, mais potentiellement.
Ouais, mais Paris.
Et le reste de la France.
Le reste de la France.
Voilà, donc il dit OK, mais donc ça ne correspond à rien. Donc on sent encore une fois un chiffre au doigt mouillé, hein, filé comme ça entre aux journalistes en disant bon, il me demande un chiffre, faut que j'en donne un. Alors 250 000. ça doit peut-être vous rappeler une certaine Agnès Buzyn, hein, qui était ministre de la Santé au début du Covid.
Oui,
et qui expliquait qu'il n'y aurait que 200 000 cas en France. Alors elle ne parlait pas de mort, hein, parce qu'on y est, mais elle parlait de gens infectés par le Covid en France, 200 000. C'est 250 000, 200 000, ça va être le chiffre magique du ministère de la Santé. Quand ils ne savent pas, sort 200 000. Voilà. Alors, il y a quand même plus grave. Hein. On peut noter quand même que l'État et les médias retombent dans leur grande majorité dans une vision homophobe de cette maladie et des choses, en réalité. Comme pour le sida, hein, d'ailleurs, hein, puisque pour ceux qui ont connu malheureusement l'épidémie du sida et qui ont suivi ou qui ont suivi ce qui s'est passé dans l'histoire, les cas les plus nombreux au départ semblent émaner de la communauté homosexuelle et bisexuelle masculine. Mais comme le souligne un médecin proche de AIDS, cette population a l'habitude de se surveiller et en fait de suivre les maladies qui peuvent les toucher. Et ce, depuis le sida, justement. Parce que voilà, elle est donc aussi celle qui tire la sonnette d'alarme le plus tôt. Mais contrairement à une idée reçue, ça ne veut pas dire que la maladie ne touche que les homos et personne d'autre. Voilà. Et en fait, c'est le problème, c'est que toute la communication gouvernementale et aussi médiatique majoritairement laisse entendre que cette maladie ne touche pas les personnes non homosexuelles. Ah, on appelle ça les hétéros, je crois.
Personne n'ose le dire.
Pardon.
Comment on les appelle ces gens-là?
Tu sais,
des hétérosexuels.
Parce que moi, je les aime bien, ces gens-là.
T'as ta place au gouvernement, je pense.
Pardon. Mais donc, j'essaye de dédramatiser parce que oui, c'est pas drôle, mais pardon, c'est la causerie, on essaye un peu de dédramatiser tout ça. Mais qu'il faille rapidement prévenir la population les plus touchées, évidemment, il n'y a personne qui dit le contraire. Mais cela ne doit pas dédouaner d'avoir une politique de prévention large qui ouvre la vaccination au plus de monde possible, et notamment aux gens qui auraient envie ou besoin d'être vaccinés, mais qui n'ont pas forcément envie ou parler de leur vie ouvertement autour d'eux, ou qui tout simplement se disent, moi je fréquente des gens qui potentiellement peuvent être porteurs, et j'ai pas envie d'être voilà, parce que, alors je reviendrai après sur comment ça se transmet un petit peu, mais ça peut aussi venir d'une chose aussi très bête, en fait, hein, cette focalisation sur l'homosexualité et cette focalisation, disons-le, homophobe, hein, quand même, c'est que ça permet, là aussi, de cacher la très mauvaise gestion des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de faire croire à la population qu'on aurait assez d'autres 250 000. Vous avez vu, sur la tête des gens, ils vont dire, il y a peut-être un peu 250 000 PD j'ai dit PD. Donc ça va bien se passer. Juste, en fait, pour vous rappeler, messieurs, dames, c'est que cette vision-là, en fait, elle est colportée par un gars en particulier depuis des années, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, hein, qui nous expliquait qu'il y avait 250 000 invertis en France et que ce n'était pas aussi large que ce qu'on voulait dire. C'est marrant. Il y a des chiffres qui ressortent comme ça dans l'histoire. Voilà.
Excuse-moi, mais du coup, en fait, on est vraiment sûr de ces chiffres? Enfin, je veux dire, en France, on a les moyens de contrôler la sexualité de chacun?
Non, et alors, non seulement on n'est pas sûr, et surtout, c'est comme d'habitude, c'est des chiffres sortis à la louche et pour faire peur, vous voyez, c'est le truc à la fois. Et les 250 000, pour vous dire d'où ça vient historiquement, c'est bien du Marais. Et Jean-Marie Le Pen avait dit qu'il y a 250 000 habitants potentiels qui fréquentent le Marais. Voilà.
Ah oui.
Bah, je sais pas où vous les avez vus, mais voilà. Même temps, c'est
Jean-Marie Buzyn.
Voilà, c'est méthode doigt mouillé. Enfin, bon, alors, est-ce que la variole, ça varie? Ouais, j'ai envie de faire celle-là, parce que je la trouvais marrante. Il y a quand même une découverte récente qui démontre que, comme tous les virus, le monkeypox, hein, donc la variole du singe, varie, effectivement. Mais alors, pas d'affolement, aucun des variants repérés, pour l'instant, ne résiste à la vaccination, mais j'ai bien dit pour l'instant. Et je le redis, pour l'instant. C'est-à-dire que je peux pas prendre le pari que demain, ce soit le cas.
Tu veux pas être optimiste, c'est ça?
Non, c'est surtout qu'un virus, ils nous ont habitués, des fois, à nous dire, mais finalement, hop là, j'ai trouvé une autre façon d'arriver. Et en fait, les traitements qui existent semblent semble aussi efficace, donc il n'y a pas pour l'heure de problématique entre vaccination et traitement, donc ça va. Mais comme le souligne l'OMS, hein, dont on rappelle ici que le rôle, c'est de suivre et de prévenir, hein, ils ne se substituent pas aux États, hein, c'est pas de leur boulot, plus on laissera la variole du singe se balader, plus on tendra finalement à vacciner lentement la population et rapidement et de le faire pas rapidement comme ça devrait être fait, et plus le risque de voir apparaître un variant pouvant être plus contagieux ou plus mortel augmente.
Ah, tu veux dire que contrairement à ce que disent les anti-vax, ce n'est pas le fait de vacciner gens qui créent des mutations, ouais. C'est plutôt le fait d'avoir plein de gens qui ne sont pas vaccinés et que donc il y a une circulation accrue d'un virus qui crée potentiellement
plus de variants.
Des variants.
Ouais.
C'est fou, les anti-vax, on se dit des conneries, quoi.
Alors, on a à croire en fait finalement qu'on n'a pas appris du Covid, hein, au passage, parce que finalement le Covid, c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas du tout appris. Alors, je le dis, l'urgence, c'est maintenant, vraiment aujourd'hui, tout de suite. Il y a deux laboratoires pharmaceutiques pour l'heure qui peuvent fournir un vaccin efficace. Ils sont que deux, donc clairement, il aurait fallu le faire pour le Covid d'ailleurs déjà. Et il faut dès maintenant en fait que les brevets soient partagés pour que on puisse rapidement produire le nombre de doses nécessaires à la vaccination massive là où c'est nécessaire, et notamment dans les pays d'Afrique qui sont touchés par une variole du singe endémique depuis maintenant des dizaines d'années. Et c'est important parce que c'est là qu'est le foyer au départ. Et ben, les virus, ils restent pas maintenant parce que les gens voyagent. Ou alors, on interdit les voyages. Oh, bon, je sais pas, deux trucs. Non. Plus simple, c'est quand même de vacciner. Il faut donc permettre la fabrication rapide et surtout à l'échelle mondiale. Parce que c'est ça qui pêche encore une fois. Mais aussi, finalement, la diffusion dans les zones les plus pauvres. Et ça va nécessiter, là aussi, une entraide sur les moyens d'amener les vaccins. Parce que c'est un peu comme pour le Covid. Hein, c'est-à-dire que s'il faut maintenir à 8 degrés le vaccin, il va falloir qu'il y ait des containers à 8 degrés et qu'on mette les moyens. Voilà. Il faut aussi accélérer la prévention, hein, donc c'est-à-dire se renseigner sur ce qu'est la variole du singe, faire des choses qui peuvent vous préserver. Alors, par exemple, si vous n'êtes pas vacciné et que vous ne voulez pas prendre de risques, le sexe virtuel est une excellente solution, parce que par webcam interposée, comme quand même la vaccination arrive, hein, donc vous n'allez pas faire ça toute votre vie, mais ça marche très bien. Ou alors la masturbation à plusieurs, mais avec des distances de sécurité entre partenaires. Alors, je vous rappelle que la distance de sécurité entre partenaires, c'est 1,50 m. Voilà, comme ça vous l'avez en tête. Ou vous portez un masque, parce que comme ça évite les postillons, puis vous touchez pas la peau. Et on utilise sa main et ses jouets, hein. Quand on fait ça, on ne se partage pas les jouets. C'est important.
Non, c'est important.
Et on se partage pas les mains non plus. Voilà, le temps d'être vacciné. Ça peut être une solution temporaire et donc qui n'empêche pas une sexualité.
Ouais, c'est juste pour un peu réinventer, un peu s'adapter. Mais je me souviens, pardon, je te coupe, mais je me souviens aussi pendant le Covid, en fait, c'était, je crois, un ministère de la Santé, je crois.
Oui, c'est le Suédois.
Suédois, qui avait donné des conseils, en fait, pour se dire, vous voulez avoir du sexe et c'est pas grave.
Il donnait des positions.
Et qui donnait, alors, les positions, le fait de porter des masques, etc. Et que, en fait, ouais, il s'agit pas, là, de se terrer chez soi, de s'enfermer, juste, tiens, là, il y a quand même un truc.
Faire autrement.
Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a la notion de safe sex, elle vient quand même d'une période, c'était quand il y avait le sida,
bien
etc.
Sûr,
et que, on réinventait finalement des sexualités, des manières de prendre le plaisir. Et en fait, on peut prendre du plaisir, on peut jouir de plein de manières. Donc peut-être que ça peut aussi pousser nos imaginaires
à
réinventer.
Et c'est ce que je disais que ça peut être temporaire, mais si vous y prenez goût, ça peut même devenir un mode de sexualité parfaitement épanouissant.
Oui, pardon, je voulais juste rajouter qu'effectivement, même si on parle de sexe, le monkeypox n'est pas une maladie sexuellement
transmissible. J'y viens juste après.
Je fais le pont.
Ouais, tu fais le pont.
Je sais, ça peut paraître peut-être un peu choquant, mais en fait, le sexe n'est pas qu'une histoire de bite dans un trou.
Ben oui, tout à fait. On
Merci
est bien
de le rappeler.
Et en parallèle de ça, en fait, il faut aussi mettre la pression sur les autorités publiques, hein, pour qu'elles accélèrent et élargissent la vaccination, évidemment. Alors justement, MK, tu disais, ce n'est pas une maladie sexuellement transmise, c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, la sexualité facilite sa transmission parce qu'on fait du pot à pot.
Oui.
En fait, c'est ça en réalité. Ça n'est pas lié en fait au fait de pénétrer quelqu'un. C'est plutôt lié au fait d'avoir des contacts pot à pot. Donc je vais rappeler les symptômes principaux de la monkeypox et de la variole du singe. Comme ça, vous les aurez en tête. Donc, si vous avez un mal de gorge persistant, des douleurs génitales ou anales anormales après quelques jours après un rapport sexuel, des plaies qui apparaissent sur votre peau ou sur vos muqueuses, des ganglions qui gonflent, alors généralement plutôt dans l'aine, au niveau de l'aine et au niveau de sous les bras, du mal à avaler et déglutir, ne tardez pas à consulter, oui. Tout simplement, oui, parce que ce sont les principaux symptômes du début de la variole du singe.
Et de ce que, enfin, après tu me corrigeras peut-être, ou vous me corrigerez, enfin de ce que j'ai cru entendre, enfin on parle pas là d'un petit mal de gorge.
Ah non, c'est un truc de ouf.
Beaucoup, enfin, de ce que j'ai lu,
c'est comme avoir des couteaux dans la gorge.
Ouais, c'est ça. Certains utilisaient cette image d'avoir des lames de rasoir en fait dans la gorge.
La gorge, l'anus.
L'anus, ouais, etc. Ouais. Donc, si vraiment vous avez ce genre de douleur-là.
Vous attendez pas.
Attendez pas, quoi.
Et ces symptômes, ils peuvent aussi apparaître pour pas mal d'entre eux sans que vous n'ayez eu de rapport sexuel. Parce que c'est là, justement, MK, qu'on dit bien. Parce que je vous rappelle que la variole, c'est pas une IST et ça peut se transmettre via les gouttelettes, c'est-à-dire quand on se parle d'un peu près, via l'échange de vêtements. Via l'échange de draps aussi, tout simplement. Et pour un truc très très bête, hein, c'est si par exemple vous êtes très tactile avec vos amis et que vous faites des câlins, bah en fait vous faites du peau à peau. Donc voilà, vous n'avez pas forcément un rapport sexuel avec.
C'est ça.
Voilà.
Et alors je crois que, genre, héberger quelqu'un dans un lit, changer des draps ou être câlin, ce n'est pas réservé aux homosexuels.
Non, a priori.
En fait, vous pouvez faire ça avec vos amis, même s'ils sont hétérosexuels. Ce
Parce qu'on les aime bien, ces gens.
Ce n'est pas sale.
Oui, mais moi j'aimais bien cette histoire de chasse aux sorcières.
C'est tellement mieux.
C'est tellement sympa.
Donc, encore une fois, sans parano, mais avec de la vigilance, parce que c'est ça qui est important, on peut prendre en main notre santé et obliger les fameux pouvoirs publics à se bouger le cul. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis désolé, et surtout Jonathan ne va pas aimer ma phrase. Le dérèglement climatique et le fait de rapprocher les villes des espaces naturels nous exposent de plus en plus à des cas de zoonose, c'est-à-dire passage de l'animal vers l'humain pour les virus, et donc l'arrivée de pas mal de virus sans doute dans l'avenir. Et c'est pas une vision égoïste et capitaliste qui nous aidera à nous sortir de tout ça. Voilà.
Mais pourquoi tu dis que j'aime pas ce que tu vas dire? Tu dis ça parce que, par exemple, je critique parfois le fait que les humains puissent prendre des droits qui ne sont pas les leurs sous des prétextes fallacieux et capitalistes.
Par exemple.
Je sais, je suis un peu réactant, genre.
Voilà, mais donc, encore une fois, pas de panique, mais non. De la vigilance et surtout, je le redis, pas de stigmatisation. C'est une maladie, comme toutes les maladies, en fait, ben, ça peut vous tomber dessus à n'importe qui. Il n'y a pas à montrer du doigt les gens. Je trouve que c'est odieux ce qu'on peut entendre et voir par ailleurs. Et encore une fois, moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelait à une époque l'entraide communautaire, mais au sens de la communauté de vie, c'est-à-dire pas le communautarisme. Donc, en fait, eh ben, n'hésitez pas à parler. Faites-vous aider. Moi, je trouve que Aids fait un excellent boulot, Act Up aussi en ce moment sur le sujet. Donc voilà, ils ont des réseaux sociaux, allez-y. Ils répondent aux questions. Si vous avez des interrogations, allez-y, ils sont là pour ça. Et voilà. Et honnêtement, aujourd'hui, moi je le dis, ce qu'on est en train de vivre, c'est l'exemple typique que, un, on n'a rien appris du Covid parce que sinon on aurait déjà réagi. Deux, l'homophobie est encore high level en France, mais un truc de très très haut en France, malgré le fait qu'il y ait Drag Race France. Et honnêtement, je pense sincèrement que je convie là, personnellement, là, c'est à titre personnel, je vais en parler, j'ai l'impression de revivre vraiment les années SIDA et revivre cette période où en fait on stigmatiser les gens parce que c'était plus facile que de dire en fait les pouvoirs publics n'ont pas de réponse, et en fait c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Moi je vois toute la droite et l'extrême droite en ce moment française, vous allez sur les réseaux sociaux, c'est juste à gerber, qui font des sous-entendus horribles. Alors j'irai pas jusqu'à vous inviter à aller voir ce qui se passe aux États-Unis avec les élus QAnon qui expliquent que si des enfants sont touchés par la variole du singe, c'est parce que tous les homosexuels couchent avec des enfants, évidemment, hein, le fameux vieux truc. Mais voilà, on en est là et on revoit revenir ça, et en fait le seul moyen de le combattre, c'est de parler, d'expliquer et de rappeler qu'en fait, ça ne touche pas que les homosexuels, qu'aujourd'hui, par exemple, en Espagne, 20% des personnes touchées n'ont eu aucun rapport sexuel avant de développer une variole du singe, qu'on estime qu'il y a c'est sous-estimé en termes de, diagnostic. Parce qu'il y a plein de gens qui vont pas voir les médecins, parce qu'il y a plein de gens qui, en fait, ne sachant pas, ne se font pas diagnostiquer, et puis, du coup, on fait pas toujours, des petites pustules, voilà, il y a des gens qui font ça juste en interne, ce qui fait que, ils ont l'impression pendant 4-5 semaines d'avoir une énorme angine, et puis, en fait, c'était la variole du singe, voilà. Donc, tout ça, en fait, fait que, il y a une sorte de moment où là, une fois de plus, si on part sur la stigmatisation, ça va être aussi débile que de stigmatiser les personnes asiatiques pour le Covid, les homosexuels pour la variole du singe. On voit, c'est un réflexe pourri de l'humanité. Et il faut combattre ça, il faut revenir au fait que bah, c'est une maladie, et comme toute maladie, ça se comprend, une fois qu'on l'a compris, ça se soigne et ça s'évite, quoi. Voilà.
Ouais. Et ben voilà, je crois que tout est dit, donc soyez vigilantes et vigilants sans tomber dans la parano. Mais en plus, là, enfin, souvent, en plus, enfin, l'été, c'est une période propice pour les rencontres, pour tout ça.
Et surtout, n'arrêtez pas. Hein.
Non, c'est juste, mais prenez-le en considération. Ça veut juste peut-être dire avoir une sexualité un peu différente, et ça ne veut pas dire qu'elle sera plus mauvaise, c'est juste différente, et c'est pas grave. Mais voilà, soyez quand même vigilants et vigilantes.
Ouais, parce surtout que restez informés, donc on n'attend pas que ça vous tombe dessus.
C'est ça. Et parce que c'est pas un, je veux dire, on a une connaissance qui, quelques connaissances qui ont pu le choper. C'est douloureux, il y a de l'isolement pendant 5 semaines. Donc voilà, donc si vous pouvez vous faire vacciner, vaccinez-vous, c'est très compliqué. Enfin, à titre perso, moi ma deuxième dose elle a sauté parce que bah justement, il n'y a pas assez de vaccins.
Ben, on a 250 000.
On va rappeler qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant, c'est uniquement les Cegid qui s'occupent de ça partout en France. Donc cherchez les Cegid, alors c'est C-E-G-I-D-D. Je ne saurais pas le dire, je veux dire Cegid.
C'est des centres d'éducation.
Voilà, et j'ai pas la suite.
D'information et de dépistage.
Voilà, donc du coup, en tout cas, c'est eux qu'il faut contacter, soit en ligne, soit par téléphone. Et sinon, vous avez tout sur les sites des ARS locales. Donc, vous avez sur le site de l'ARS Rhône-Alpes, ARS, selon où vous vous trouvez. Et vous avez la liste, voilà. Mais n'hésitez pas, le vaccin, il fait pas mal. En plus, voilà, il peut en donner deux fois un petit peu de fièvre, mais comme tous les vaccins. Mais en tout cas, au moins, vous êtes tranquille. Et si vous êtes un peu comme moi et que vous êtes né avant 1979, vous avez besoin que d'une dose, c'est encore plus, c'est encore mieux. Voilà.
Privilège de vieux, quoi.
Bah ouais, exactement. Pour une fois, merde. Allez, on passe à la musique.
Allez.
Go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in a summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long. The moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look that I see on your face. Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly. Tell you next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, I won't cry, for the good's gone, gone from goodbye. If you go away, if you go away, if you go away.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur RadioCanu.org et j'ai un peu chevrotté en parlant. Voilà. Et c'était Imani avec If You Go Away, qui est la reprise en anglais de Ne Me Quitte Pas de Jacques Brel, et qui est, et ce titre est issu de son album Wooducello, donc c'est-à-dire les
violoncelles,
vaudou. Ouais, c'est du mal hein, ce soir. Voilà, et j'adore la voix d'Imani et cette reprise, je la trouve très très belle. Voilà. Et là, on va continuer avec Jean-Yves, qui termine de bailler et qui va commencer sa chronique dans un instant.
Excusez-moi. C'est ah, je suis désolé, quand ça vient, ça vient.
Et donc, du coup, bah, toi, tu voulais nous parler d'un livre qui t'a un peu beaucoup plu.
Oui, tout à fait. Ce soir, j'ai eu envie de vous causer du livre Écriture carnassière d'Hervé aux éditions Maurice Nadeau dans la collection À Vif. Alors, déjà, juste Hervé, c'est pas H-E-R-V-E, c'est E-R-V-E. Voilà, c'est juste pour le trouver, ça sera plus simple. Donc Hervé a 50 ans, il vit dans la rue depuis longtemps, très longtemps, pour ne pas dire depuis presque toujours, mais ça l'empêche pas hein, d'être un amoureux des mots, de la lecture, de la chanson, de la poésie et de bien d'autres choses. Et il est également sur Twitter avec le compte Croise-Pat. Et il est aussi proche de l'association Les Morts de la Rue. C'est une asso qui suit bah, toutes les... Enfin, qui suit.
Qui dénonce et qui aussi
font des cérémonies pour les personnes qui crèvent seules dans la rue, en fait, parce que ça arrive. Et donc, voilà. Et en fait, je me suis dit que bah, pour mieux connaître Hervé, bah, je trouvais que son texte Recule, que vous trouverez dans ses écritures carnassières, bah, était très parlant et que ça nous faisait déjà une petite présentation. Alors je vous le lis de suite. Recule. Pour avancer, je couche les mots. Je couche avec, même. User de l'imaginaire pour poser le vrai et poser ce que je suis. Bancal, marginal, cas social de naissance. Sans phare, me délester de ce fardeau qu'est la vie pour certains. Je vide mon sac ado et adulte et, de plus loin, enfant. L'enfance où tout démarre. Je me regarde de loin, un peu de haut, pour écrire mes mots, mes joies et mes sentiments perdus ou retrouvés ailleurs. Pas un jour sans que je ne pense à mes deux poumons, avec le lot d'inquiétudes que mon putain de cerveau embrumé m'impose. Le précipice de mes pensées. Toujours être dans l'inquiétude alors que je cultivais le suicide sans en avoir l'air. Alors je picole, j'écris, je gratte, toujours la clope au bec. Je me rends poreux plus que peureux du monde qui m'entoure et qui me fait face au quotidien. Rendre fluide le flou. Prendre du recul sur toutes mes fugues, mes absences, mes ratages, mes regrets et mes amours fugaces. Me réparer un peu au fil de l'eau de mes absences de rêve. Prendre du recul pour éviter le précipice, c'est mon credo. Ma conduite depuis la venue de mes deux poumons. Réfléchir sans subir, aimer sans attendre. Et espérer le mieux. Même si mes os craquent, que mes yeux subissent, que mon cœur s'alerte, tenir en éveil toujours mon cerveau et ma plume qui remplacent mes mots. Et aimer, même si ça doit en passer par en chialer des cascades. Le recul, exiger de moi un mécanisme qui fait que je puisse être, que je puisse exister en un monde qui me regarde souvent de travers. Bourré, je suis le roi du monde. À jeun, je suis un poltron. Je suis un clochard alcoolo-tabaco-dépendant, un CAT qui ruine sa vie depuis sa naissance, un chat sauvage sans griffes. Voilà, pour la petite présentation qui, je trouve, est absolument merveilleuse, même si un peu pas joyeuse, mais voilà, non, c'est la vie.
En tout cas, il y a une écriture très très poétique,
je trouve aussi,
très imagée et très belle.
Oui. Donc, Écriture carnassière, hein, bah, c'est un livre sur sa vie. Sur des passages de sa vie, plus exactement, 49 textes au total, pour un partage sans phare, d'une vie en fardeau. Il nous parle de son enfance, abandonnée très tôt. Il nous parle de la DAS, de sa vie en foyer, les copains, dont un Clément, qui partira dans sa famille que personne ne remplacera. Il y a les manques aussi, les rêves, les escapades aussi, qui nomment fugue, même au foyer, qui sont des brèves parenthèses d'insouciance, mais il parle aussi des violences, les agressions et les viols qu'il subira enfant. Et là aussi, sans phare, hein. C'est la vie, c'est brut, c'est comme ça.
C'est carnassier.
C'est exactement ça. Il nous parlera sans pudeur de ses difficultés, celle d'exprimer ses émotions, ce qui fait qu'enfant, il attendait de pouvoir se glisser sous son lit pour laisser les larmes couler, et qu'aujourd'hui encore, hein, adulte à 50 piges, bah, il attend d'être seul, à l'écart, dans la nuit, ou alors qu'il pleuve pour pleurer. Parce que, bah, comme il l'écrit, hein, il fait déborder la Seine à chacun de ses passages sur ses rives, rebords ou quais. Quand il sanglote, Paris croit qu'il pleut. Je trouve que c'est d'une beauté, d'une sensibilité très belle. Il parlera aussi des retrouvailles, hein, courtes, brèves, avec sa mère, la petite boule puante. Là, je le cite encore, hein, c'est même le sujet d'une des brèves. Ses frères aussi, et celle aussi qu'il a aimée, qu'il aime encore, mais à qui il pense ne pas pouvoir offrir tout ce qu'elle mérite, et avec qui il a eu deux poumons. Ces deux poumons-là, bah, c'est juste leur fille. Et c'est vraiment, on sent que c'est un peu le truc qui le fait tenir, même si ça ne soigne pas tout, et que, mais voilà, il est là au mieux qu'il peut pour elle. Alors évidemment, il nous parle aussi de la rue, des difficultés, de la violence. D'ailleurs, on peut lire, hein, je vais encore vous citer un petit peu de son livre. « D'aucuns pensent que vivre à la rue est une forme de liberté. Liberté d'y crever surtout. Aucune projection, une routine assommante souvent, la violence ambiante avec d'autres compagnons d'infortune, le mépris du quidam, le tout enveloppé d'une infinie tristesse et de beaucoup de regrets. » Mais dans tout ça, il y a aussi des rencontres, des échanges avec d'autres compagnons de rue, avec certains habitants de son bureau. C'est là où il fait la manche. Il a son bureau à lui. Un patron de bar aussi qui l'aidera, même si le passé a pu être un peu tumultueux avec lui. Et aussi toujours ce besoin de s'isoler, de se retrouver seul, de continuer ses fugues finalement, hein, que ça soit par un chantier dans le sud ou une escapade londonienne, avec l'amour du train comme compagnon. Ça, c'est aussi, c'est un de ses tripes, c'est le train. Et je le comprends, parce que le train, c'est quelque chose d'absolument magnifique quand vous vous promenez comme ça et que vous découvrez des choses à un rythme calme. Alors bref, on n'est pas dans une autobiographie pure et dure, hein. D'ailleurs, il déteste qu'on dise que c'est une autobiographie. On est juste là, en fait, j'ai presque envie de dire un peu comme ici, à la causerie. On est juste avec lui et il nous raconte des passages de sa vie, en fait. Et tout ça, c'est pas non plus que sur son nombril, en fait, hein. Je pense que vous l'avez peut-être un petit peu compris, vous le comprendrez vraiment en le lisant, mais au travers, en fait, de son partage, ben, il parle de nos sociétés, de la violence de notre monde, de la violence sociale, des violences physiques, de la place des enfants dans notre monde, hein. C'est un truc dont on aime aussi parler ici, des fois. Mais de l'exclusion aussi, mais aussi, ben, de l'amour, de l'art, de la poésie, de la musique. Et dans l'ouvrage, justement, il y a aussi, il y a quelques textes à lui qui ne sont pas, on va dire, des histoires de sa vie. C'est juste des textes, des poésies, des chansons qu'il a pu écrire et qui d'un coup vous arrivent comme ça en pleine gueule et vous lisez ça. Et c'est hyper agréable et très surprenant, mais c'est vraiment agréable. Et le tout, hein, dans un style, vous l'aurez compris, hein, brut et doux à la fois, réaliste et imagé, entre tristesse et envie de vivre, entre ivresse et lucidité. Bah, l'amour difficile, hein, à vivre quand on a l'amour en solitude. C'est un truc comme ça qui est toujours très ambivalent et il se pense toujours trop handicapé pour pouvoir aimer, et donc il fuit. Et il en est conscient, et en même temps, ben, on peut être conscient de plein de choses, et pour autant, on n'arrive pas à travailler dessus, à avancer là-dessus, et que ça fait pas de vous quelqu'un de pas bien ou de pas sympa, mais c'est juste, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, c'est un livre plein de vie, rempli d'humanité, sous toutes les coutures, vraiment toutes les coutures. Donc je vais pas en parler plus, parce qu'il fait voilà, 140 pages, je crois, à peu près. Donc, l'idée, c'est pas de vous spoiler absolument tout le livre, c'est juste vous donner l'envie. Et c'est vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai bouffé ça très rapidement. Donc, je rappelle, c'est Écriture carnassière d'Hervé, E-R-V-E, dans la collection, à vif des éditions Maurice Nadeau. Voilà pour moi.
Moi, j'ai une question. Alors, bon, déjà, l'extrait que tu as lu, je l'ai trouvé très, très beau. J'ai pas lu le livre, hein, je le dis. J'ai trouvé ça très, très beau. Moi qui suis un amoureux de Rimbaud, ça m'a rappelé l'écriture rimbaesque. Mais je fais pas un parallèle.
Non, hein. Mais il promenait, je suis tombé sur une interview de lui, il promenait très longtemps un livre de Rimbaud avec
qu'il
a perdu, en fait. Et ça, je crois que ça foutait un peu en...
Ouais, mais on sent cette écriture un peu entre poésie, onirisme, voilà, et crudité. Ça ne dit pas crudité, ça, non, c'est pour le truc qu'on mange. Ça n'a rien à voir.
Je crois que Sarah se fout de toi.
Oui, elle a raison, parce que même moi, quand je l'ai dit, je dis ce mot ne se dit pas.
Une petite salade, s'il vous plaît.
Non, mais c'est cru, en fait.
C'est brut.
Brut, ouais.
C'est la vie. Quoi.
Mais du coup, moi, ce qui est, je ne sais pas si tu le sais, hein, je vais peut-être te coller dans ce que je vais demander, mais comment, en fait, ce Hervé est passé de la rue au livre et comment, en fait, il s'est retrouvé édité? Parce que c'est quand même, c'est un parcours quand même. Parce que alors moi, je fais partie des gens, je sais qu'on n'est pas beaucoup, à penser que les gens de la rue sont pas des gens anormaux, sont juste des gens qui vivent à la rue, mais ils ont aussi des goûts, des envies, il y en a qui écrivent, il y en a qui font des trucs comme ça.
Des
humains, hein, un truc de fou. Mais du coup, voilà, je suis pas surpris, par exemple, qu'il y ait un écrivain, voilà. Mais ce qui, moi, m'étonne, c'est que souvent, ils ont un mal fou à se faire éditer, ouais. Ou c'est souvent de l'auto-édition, et là, quand même, c'est une grosse maison d'édition, ouais. Hein, quand même.
Alors déjà, il est toujours à la rue. Hein,
oui, tout à fait.
Mais parce que tu disais comment on passe de la rue à...
Non, comment il est passé de ce qu'il écrivait dans la rue plutôt à une maison d'édition quand même qui est quand peu prestigieuse.
Il le dit au début. Alors en plus, la préface, elle est faite par Jean Birenbaum.
De Radio France.
Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est lui, Guy... Birenbaum, pardon. Ouais. Hervé était allé à un moment, alors je sais plus, là je vous le dis en grosso merdo, hein, c'est pas exact tout ça, mais en fait il est allé à une rencontre et il a rencontré ce gars et je crois que Birenbaum a pu lire certains textes. Et il lui a dit, mais en fait toi il faut que tu sois édité, quoi, parce que ton écriture elle doit être lue. Et je pense qu'en fait c'est à partir de là, en fait il y a sûrement des connexions entre différentes personnes qui l'ont poussé vers certaines maisons d'édition, mais enfin vraiment, oui,
mais je trouve ça très bien parce que ce qui est génial, c'est que ça montre que c'est souvent quand on se parle qu'on se comprend et qu'on se connaît, donc parce que finalement qu'est-ce qu'un gars de Radio France, je crois, de je pense
ouais, je crois
se retrouver je... il me semble que c'est ça, enfin en tout cas d'une grosse radio, se retrouve à discuter avec un SDF qui écrit, et c'est finalement cool, quoi, parce que ça, c'est ça qui démontre que les parcours et le fait de se croiser, c'est bien.
Ça fait partie de ces belles rencontres dont tu peux parler, effectivement.
Tout à fait.
Ouais. Et ben voilà, en fait, c'est Birenbaum qui dit « Notre rencontre a eu lieu à la librairie Tropique, à Paris. Une signature était organisée pour la sortie d'un de mes bouquins, alors que je dédicassais ce gars, avec les yeux tellement bleus, s'est avancé timidement vers moi. Il parlait très doucement, comme le font ceux qui craignent de déranger, alors que ce qu'ils ont à dire vient du plus profond de leur cœur. » Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une rencontre.
Mais c'est bien, ouais.
Et qui a été ensuite derrière. Enfin, il a eu de l'aide aussi.
Hervé remercie
les personnes qui l'ont un peu aidé, qui l'ont un peu poussé, qui l'ont corrigé aussi, etc.
Mais on sent que c'est un super auteur, en plus, je veux dire, ça se ressent. Mais je trouve ça super bien, finalement, qu'il ait pu être édité et qu'on ne soit pas passé à côté d'une écriture qui me semble être de très grande qualité.
C'est ça. Voilà. Donc, amis auditeurs, auditrices, si tu l'as lu, si tu vas le lire, n'hésite pas à faire des retours, parce que j'aime bien aussi.
En plus, sur le blog, avec les commentaires.
Avec les commentaires, tu sais, c'est ça. C'est incroyable, vraiment une mécanique dingue, quoi. Et ben voilà, donc je rappelle quand même vite fait avant qu'on passe à la musique, Écriture carnassière chez Maurice Nadeau de Hervé.
Et demandez-le dans vos médiathèques et bibliothèques.
Effectivement. Voilà. Et on passe à la musique. «
Le soleil est descendu, je les vois, ils s'approchent. Ce nuage est bienvenu, invisible, je m'accroche. Je m'accroche à leur étrave, c'est à peine un bateau. Ils sont encore si nombreux, cet enfant est si beau. Bonsoir femme, n'as-tu pas peur de lâcher ton enfant? Il dort bien, mais s'il pleure, il réveillera le vent. Si tu veux, je peux le prendre, il n'aura plus jamais faim. Donne-le-moi, je veux apprendre à aimer un humain. Non, sirène, laisse-nous donc, cet enfant n'est pas mien. Il est lui, il est au monde et je veux qu'il soit bien. J'ai quitté mon bout de terre, il serait devenu soldat. J'ai traversé des frontières car il peut être roi. Pauvre femme, tu es naïve, rien ne l'attend là-bas. Il sera, s'il arrive, une épave et puis toi. Tu devras, pour qu'il survive, vendre encore plus que ta vie. Donne-le-moi si tu me fâches, ou coulerez tous ici. Mon sirène, le vent se lève, mais je ne lâcherai pas. Il est tout, il est ma sève, je sais qu'il grandira. Des centaines parmi ses frères dorment dans les plis de tes roches. Mais lui, il sera capitaine du bateau qui s'approche.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie. Et là, on vient de s'écouter un titre du groupe Fleuve en compagnie de Sarah Flock avec le titre Odyssée. Un très beau titre. Alors, c'est une légende au départ et en même temps, ça sonne tellement avec tous les gens qui peuvent traverser, tiens, des mers en fait et qui crèvent parce que voilà, enfin c'est juste très très beau. Donc voilà, on va se quitter avec quelques petites infos, quelques coups de gueule, vous les prendrez comme vous voulez. Donc déjà, c'est rappeler que des gamins sont toujours dans des tentes, sans papier, des mineurs, parce que les mairies, parce que les métropoles, parce que les préfectures préfèrent envoyer faire des descentes de la police aux frontières sur les pentes de la Croix-Rousse autour de l'hôtel de ville plutôt que d'ouvrir des lieux pour protéger ces gamins. Hein, on parle bien d'enfants, alors vous me direz, enfants ou pas, on s'en fout en fait, parce que tout le monde a le droit de vivre là où il a envie et là où il peut. Donc voilà, donc juste rappeler que ces gamins sont toujours dans des tentes. Alors quand c'est canicule, c'est horrible. Quand il pleut à torrent, c'est horrible aussi. Les tentes fuient, les barnums fuient. On rappelle que c'est toujours la galère pour eux de se déplacer parce que la gentille métropole de gauche a donc éclaté les squats qui existaient et a disséminé les enfants un peu partout, y compris jusque dans l'Ain. En sachant que ces enfants sont attendus pour manger sur Lyon, qu'ils n'ont absolument aucun titre de transport. Donc voilà, ils ont le droit d'être humiliés régulièrement par les contrôleurs, parce que le petit pouvoir, c'est toujours bandant, n'est-ce pas? Et quand on n'a pas pu faire flic, si au moins on est contrôleur. Hein. Enfin bref, pardon, mais c'est juste une situation voilà, qui démontre bien que la patrie, soi-disant, des droits de l'homme, faut que tu sois blanc et que tu aies tes papiers, parce que sinon tu ne vaux pas grand-chose. Donc n'hésitez pas toujours à suivre un peu le Collège Sans Frontières Maurice Sève, qui fait, on va dire, des appels soit à hébergement, soit aussi à payer, enfin à filer des tickets de transport pour que les jeunes évitent au moins l'humiliation des contrôles dans les transports en commun. Donc n'hésitez pas, alors oui, c'est l'été, oui, c'est la plage ou la montagne ou les vacances, mais pas pour tout le monde, ne l'oublions pas. Voilà.
Ouais, moi je vais partir sur autre chose, on va traverser l'Atlantique. Moi je voulais dire que c'était pas l'été ni les vacances finalement pour les fanatiques religieux, parce que il y a un gars qui s'appelle Salman Rushdie qui vient d'être attaqué pendant une conférence aux États-Unis. Donc je vous rappelle, Salman Rushdie, c'était l'auteur des versets sataniques, et c'est pour ça qu'un certain Khomeini à l'époque, dirigeant de l'Iran, avait émis une fatwa contre cet auteur. Alors pour ceux qui ont lu une fois dans leur vie les versets sataniques, vous comprendrez jamais pourquoi il y a eu une fatwa, mais moi je l'ai, voilà, c'est surtout très beau en dehors de toute autre chose. Mais de toute façon, ça aurait été un livre d'insultes sur la religion, ça n'aurait jamais légitimé un appel à la mort. Voilà. Donc je voulais juste rappeler ça. Et puis surtout, ben, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que Salman Rushdie s'en est sorti, a priori. Bon, il devrait perdre un œil, ce qui est quand même pas rien, et aussi l'usage de ses mains, d'une de ses mains, ce qui est emmerdant quand on est écrivain, quand même. Voilà. Mais il semble plaisanter, d'après ses proches, voilà, parce que Salman Rushdie, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, y compris dans ses livres. Mais moi, ce qui m'a un petit peu aujourd'hui et ce qui me choque un petit peu, bah, c'est le silence et l'apathie hein, autour de tout ça. On a quand même donc quelqu'un qui, au nom de sa religion, sa foi, sa croyance, ou ce que vous voulez, a donc décrété qu'il avait le droit d'aller lézarder un autre être humain de 20 coups de couteau. Ça me semble être juste aberrant hein, que ça ne fasse assez peu réagir. Et surtout, ce qui, moi, m'inquiète et m'intrigue, c'est que cet homme-là a 24 ans, c'est-à-dire celui qui a donné les coups de couteau, et qu'il n'était même pas né au moment où est sorti le livre, ou au moment où la fatwa a été prononcée. Et donc, ça démontre bien que cette idéologie fascisante qu'est l'islamisme politique, parce qu'il s'en revendique, est quand même quelque chose qui se transmet. Et donc, c'est ça qui, quand même, à un moment donné, qu'il va falloir regarder. On a su faire hein, dans l'histoire décortiquer tout ce qui était les dictatures à droite, à gauche, militaires, pas militaires, les différents courants de dictatoriaux, mais là on semble être un peu démunis pour voir et observer quand même un mouvement de fond qui est un mouvement de type fasciste dictatorial, au même titre que peut l'être d'ailleurs certains mouvements religieux catholiques en Amérique du Sud, certains mouvements bouddhistes ailleurs dans le monde, et on fait comme si c'était différent, et en fait finalement non. Et aujourd'hui, en fait, bah, malgré lui, hein, parce que je vous rappelle que Salman Rushdie n'avait pas envie d'être un porte-parole de la liberté, il voulait juste être écrivain, ce qui était déjà pas mal, en fait, il se retrouve à devenir le symbole de ces religions qui n'oublient pas. Vous savez, c'est-à-dire le fameux temps religieux dont on
parle souvent.
Souvent
ici, oui.
C'est-à-dire que, bah, voilà, quelque chose qui date de 1989, bah, en 2000, on est en 2022. je mélange dans les dates ce soir. En 2022, on peut être lézardé à coups de couteau parce qu'on estime que ce qui a été prononcé et ce que vous avez fait est inadmissible. Bah, c'est juste un petit peu flippant de voir ça, et surtout, ça devrait nous réveiller sur ce qu'est encore aujourd'hui la prégnance de certains courants religieux dans le monde, et je dis bien courants religieux au pluriel et religion au pluriel, et qu'il faut arrêter vraiment de prendre ça à la légère. Et je reprendrai une phrase de Salman Rushdie, c'est que la religion, c'est une superstition moyenâgeuse, mais quand elle se dote des armes modernes, elle en veut à nos libertés, et je pense qu'il avait malheureusement raison. Voilà.
Ouais. Et oui, et en fait, quand on critique la religion, on n'est pas fasciste.
Les religions.
Les dogmes, en fait, on n'est pas fasciste. Ça s'appelle du matérialisme, ça s'appelle l'anticléricalisme.
Mais un truc qu'on est, c'est l'esprit critique. Ouais, c'est ça, l'esprit critique.
Un truc dans le genre, quoi. Okay. Donc voilà, alors oui, on sait qu'il y a des gens qui voudraient qu'on leur parle que de choses positives, mais désolé, pour ça, il faudra passer sur une autre station, ou en tout cas une autre émission, parce que bah, le monde n'est pas que joyeux et sympathique.
Bon, libre penseur un jour, libre penseur toujours.
Puis, moi j'ai envie de dire que si vous voulez qu'on parle de choses positives,
changer
si
le monde.
Exactement, à un moment donné, il faut aussi se bouger le cul pour qu'on en ait à en dire.
Parce que moi je serais super content de venir faire une émission pour expliquer comment ça va bien. Un jour ça viendra. Un jour je serais trop content.
Prochaines émissions de la causerie. Alors voilà, on a enfin réussi à avoir un monde où tout le monde peut vivre en paix selon ses propres convictions et ses choix.
Et ce serait génial, il y aurait toujours encore à causer de plein de choses.
Ce serait formidable,
vraiment. Hein. Ça ne remet pas notre existence en question, en fait. Hein.
Bon, en tout cas, nous, on se retrouve semaine prochaine pour la dernière émission du mois d'août, a priori. Sauf si Clara vient en faire une toute seule.
J'ai pas prévu.
Ah bon. Donc voilà, et ensuite on fera une petite pause estivale. Voilà, on vous dira la semaine prochaine quand on revient tout ça. Et voilà.
On veut tout savoir ce que vous allez dire.
Non, faut d'abord qu'on en parle. Tu m'excuses.
Et ben on va se quitter aussi par un titre qui a été choisi par Jonathan, quoi.
Eh ben ah, oui.
Voilà. Alors là,
voilà, moi je reviens, je m'impose, je m'installe, quoi.
Ce que j'allais dire. Alors tu l'annonces, tu sais comment on fait encore ?
Eh ben oui, vous allez écouter dans l'instant un morceau de musique qui s'appelle Colors de Black Pumas et en fait on va pas en dire plus, vous allez écouter si vous aimez, après il y a tout un tas de moyens d'aller retrouver ce qu'ils font.
C'est tout à fait.
Et c'est dans une version live.
Ouais, c'est ça, donc vous avez 6 minutes de plaisir là. C'est pas long, mais c'est bon.
C'est pas la taille qui compte.
Il a duré.
Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre visite.
Ouais, c'était cool.
SP, Jonathan, MK. Et puis, au plaisir de vous retrouver autour des micros. Et puis, nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain, 22-23, toujours à l'antenne de Radio Canu. Et d'ici là, il y a plein de choses formidables sur l'antenne de Canu. Même si toutes les émissions ne sont pas là, il y a des formidables bandes continues qui sont là depuis 1995. Alors vraiment, c'est varié.
Voilà.
Kiffé. Voilà.
Yeah. Et coucou à Mouteki, parce qu'ils ont repris.
C'est vrai.
Voilà.
Des bisous et à bientôt. Ciao.
Bisous, ciao. Ciao.
Woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. By a meadow of green, for about a mile, I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors. Yes, ma'am, I got all my favorite colors, right now. Are my sisters and my brother, see them like no other.
Somebody help me feel alright tonight. Now we gon'